Bonjour et bienvenue sur la Microsoft Virtual Academy pour cette deuxième partie du cours portant sur le design applicatif. Alors, je m'appelle Michel Rousseau, je suis évangéliste technique pour tout ce qui concerne les expériences utilisateurs et les design interfaces chez Microsoft France. Et dans le cadre de ce deuxième cours, on va mettre en pratique ce que l'on a vu bien entendu dans le premier, à savoir que le design applicatif, c'est un process intégré au cycle de développement d'une application. C'est un passage obligé pour rendre votre application sympa, sexy, utilisable, désirable et poétique si possible. Et nous verrons comment on en fait à partir d'un fonctionnel très très simple existant dans un logiciel comme Visual Studio, et bien comment on en fait au final une application qui soit un peu plus designée, un peu plus graphique, qui raconte un peu plus une histoire, comment finalement rendre une application un peu plus sympa à utiliser. Bien, alors comme vous avez dû le voir avec Stéphanie Hertrich dans ses cours de développement pour les débutants, on va partir d'abord d'une application très très fonctionnelle en mode console, quelque chose de très très simple. On va ouvrir la solution pour voir ce que ça donne dans Visual Studio. On va passer sur une version un peu plus évoluée et on va regarder ce que ça donne toujours avec Visual Studio mais en WPF, donc déjà avec une notion d'interface graphique. Et puis après, on va passer sur Blend pour Visual Studio pour voir un petit peu comment, comment récupérer le fonctionnel d'une application et comment un peu le modifier. Alors pour ça, c'est assez simple, j'ai ici un ensemble de ressources, par exemple ici l'application console que je vais lancer devant vos yeux ébahis, de manière à vous montrer à quoi ressemble l'application finalisée en mode console. Donc là, il me demande de choisir un nombre. En l'occurrence, je vais choisir, je sais pas moi, 10, c'est moins, donc on va choisir 5, c'est plus, donc on va choisir 8, moins 7, pas de chance, c'est 6. Voilà, j'ai trouvé le nombre qu'il me faut. Très bien. Donc ça, c'est d'ores et déjà, ici, un... ouvrir ce CS Proj, c'est déjà un projet complet avec des ressources, un ensemble de pages qui lui sont liées, un ensemble de répertoires et éventuellement de scripts, de codes qui permettent de résoudre la petite équation qui est demandée. Très bien, la même chose pour l'application qui suit ici. Qui est en mode WPF. Donc là, c'est l'application déjà un petit peu designée. Donc je vais repartir d'une autre, je vais venir ici, debug, et le nombre mystère en mode WPF. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que ici, j'ai déjà une interface graphique qui va me permettre d'entrer un chiffre, donc par exemple 10, c'est plus, on va dire 15, c'est plus, on va dire 17, c'est moins, donc ça va être 16. Voilà, donc là j'ai des petites mentions qui me renseignent, qui me disent effectivement ce qu'il faut faire. Bon, on va essayer de transformer ce module là en WPF en quelque chose, ma foi, d'un peu plus designé, puisque le but du jeu est d'obtenir ceci, c'est-à-dire exactement le même fonctionnel, hein, il me renseigne sur ce que je suis en train de chercher, et puis de rentrer des chiffres. Donc par exemple, ici je vais dire pareil, 10, je valide mon chiffre, c'est moins, 5, je valide, c'est toujours moins, 3, c'est toujours moins, 2, décidément. Voilà, et c'est gagné, c'était le chiffre 1. Donc on va essayer de transformer effectivement l'application WPF assez simple en quelque chose d'un petit peu plus designé, d'un petit peu plus sympa. Alors effectivement, si je repasse dans mon archive WPF, je peux retourner ici à mon nombre mystère et je peux voir que j'ouvre le projet tout comme j'ouvrais le mode console dans Visual Studio. Je peux ouvrir effectivement les différentes pages ici qui vont afficher le code qui lui est afférent et puis ouvrir le designer qui permet déjà de se faire une idée. Bon, mais ceci, je peux le faire aussi de la même manière, je peux l'ouvrir exactement dans le même contexte depuis l'application Blend pour Visual Studio. Alors là, dans Blend pour Visual Studio, on a une interface qui est assez classique, pour laquelle je peux aussi un peu changer le look and feel de l'appli en changeant par exemple la couleur, pour que ça soit peut-être plus agréable pour vous à suivre. Voilà. Et puis avec une interface qui, somme toute, est assez proche de ce que l'on rencontre dans les suites d'outils bien connues dans le monde de l'édition graphique, à savoir par exemple ici une page centrale qui me permet d'avoir une visualisation de ce que je suis en train de faire avec un niveau de zoom, hein, ici, avec ici des petites scroll bars qui sont ajustables, je dirais, dynamiquement en appuyant sur la barre d'espace ici, en me déplaçant dans le visuel. On a ici des interfaces de propriété, c'est-à-dire que chaque élément qui va composer ma page va ici avoir un certain nombre de propriétés. Et puis ici, des caisses à outils qui me permettent, eh ben, ma foi, d'aller piocher des propriétés ou des objets, des items qui vont me permettre d'ajouter des éléments dans mon visuel. Par exemple, dans ma page, je vois déjà que j'ai un certain nombre de choses. On est dans un contexte applicatif Windows, là en l'occurrence, et je peux par exemple ajouter un bouton. Le bouton, je le prends de la caisse à outils ici et je viens l'ajouter à la volée. Je vois que ce bouton, il a d'ores et déjà un certain nombre de propriétés. Je vois qu'il a été ajouté ici dans mon arborescence de mon projet graphique. Et qu'il a été ajouté sous un élément qui s'appelle grille. Alors, la grille, c'est quelque chose d'un peu particulier. Et là, d'ores et déjà, on commence à faire un petit distinguo entre les éléments entre eux. À savoir que nous avons des éléments de positionnement, donc qui permettent d'organiser un peu la data dans la page. Donc, vraiment de faire du positionnement de zone ou d'éléments distincts dans une page, et puis après des éléments qui vont réaliser des actions comme des boutons, des scroll bars, que sais-je moi, des checkbox, donc des cases à cocher, des choses comme ça. Donc ce bouton, on a vu, il vient avec un certain nombre de propriétés ici, notamment la fonctionnalité background qui là par défaut est laissée à vide. Il suffit que ce background, je lui dise je voudrais te donner une couleur un petit peu plus dure et que je change cette valeur, et vous voyez que eh ben, le background de mon bouton change à la volée. C'est la même chose pour la taille du texte que porte le bouton ici. Je peux très bien dire plutôt que d'avoir du 11 points, je vais plutôt avoir envie de l'avoir un petit peu plus gros. Voilà. Donc c'est à partir de ce concept très très simple, j'ai un fonctionnel qui comporte un certain nombre d'items et ces items sont adressables et manipulables à la volée. Bien, à partir de ce concept-là, je peux bien sûr réouvrir le projet tel que je l'avais ici en WPF directement dans Blend pour Visual Studio. Alors pour ça, je vais fermer le projet existant. Close Project, ici. J'ai pas envie de sauvegarder, très bien, et je vais ouvrir celui qui se trouve sur mon bureau. Et donc, on va chercher le projet ici. Donc, je vais ouvrir non pas un nouveau projet, mais un projet existant qui se trouve sur mon bureau. Nombre ministère WPF. Et voilà le projet qui avait été créé initialement par Stéphanie. Donc, vous voyez que c'est exactement le même fichier qui est ouvert, la même solution avec la même intelligence qui est ouverte, seulement là il est ouvert dans un éditeur qui va me permettre effectivement de ne faire que de l'interface graphique, vraiment que du travail sur le design et sur le graphisme de l'application. Bien, la première chose à faire sera potentiellement de définir effectivement la résolution de sortie de mon application. Et pour ça, je vais aller m'attaquer directement au premier item qui remonte ici dans ma liste, dans mon arborescence, qui s'appelle Window. Vous voyez que Window dispose, est un élément comme un autre, hein, finalement, et dispose d'un certain nombre de propriétés, et notamment, eh bien ici, d'une résolution. Donc par défaut, l'application vaut 525 par 350. On pourrait vouloir beaucoup plus. Donc en jouant un peu ici sur, finalement, la largeur et la hauteur, je peux redéfinir à convenance une taille. De la même manière que je peux aussi, dans les options avancées, eh bien, définir un certain nombre de choses, notamment le type d'alignement de la page, si je veux des scrollbars, donc des ascenseurs, des choses comme ça. Bon, ben voilà, ça c'est typiquement la méthode de travail quand je dois refaire du design par-dessus du fonctionnel, c'est que je vais aller attaquer les différents éléments qui sont présents dans mon arborescence, puis essayer de les modifier, trouver la bonne place, trouver le bon emplacement. Bien, alors la première des choses que l'on peut faire quand on en arrive à ce stade-là, c'est passer par un autre logiciel comme Adobe Photoshop, par exemple, pour se faire quelques maquettes et pour voir ce que l'on pourrait améliorer rapidement. Mais dans un premier lieu, ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de trouver la bonne place pour les différents éléments, le bon zoning, le bon layout qui va me permettre d'avoir une appli qui soit déjà un peu plus fonctionnelle que ça. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai un gros espace vide ici qui n'a pas vraiment de valeur, j'ai des boutons qui sont superposés là. Tout ça n'est pas terrible et est purement fonctionnel. Voyons voir déjà comment on va améliorer un peu le zoning. Comme on l'a vu au début, on a une fenêtre ici avec un certain nombre de propriétés qui définissent la résolution par exemple de l'application quand elle va se lancer sur le bureau. Au premier niveau, sous cet élément Windows, j'ai une grille. Une grille est donc un élément de placement qui va me permettre de définir comment vont réagir les éléments, sachant que tous les éléments qui viennent sous cet élément, dans cet élément, comme par exemple cet élément Stack Panel, sont relatifs à l'élément dans lequel il est posé. Par exemple, Stack Panel est posé de manière relative à l'élément grille. Alors, c'est un avantage, c'est que je peux directement travailler sur la grille. Par exemple, je peux faire sauter certains objets de mon autre élément Stack Panel, qui est aussi un élément de placement, on le verra un petit peu plus tard, de l'un vers l'autre. Par exemple, je peux faire passer le bouton Valider qui est ici à la grille. Et dans ces cas-là, il est positionné par rapport à la grille, et là, il est positionné là à cet endroit-là. Et il hérite de son emplacement précédent. Mais par exemple, si je veux changer un petit peu la hauteur, eh bien je vais venir ici changer la hauteur du bouton, quitte à changer après sa marge et ainsi de suite. Donc là, vous voyez que j'ai déplacé le bouton valider depuis la stack panel vers la grille. Alors pour ça, il va falloir quand même que je vous explique un peu ce que c'est qu'une stack panel. Une stack panel, et pour ça je vais faire quelques CTRL Z de manière à revenir à l'origine. Une stack panel, c'est comme une grille, c'est un élément de placement, mais qui permet de placer les éléments les uns derrière les autres, sans distinction d'importance, il place simplement les éléments à la suite, que ça soit verticalement ou que ça soit horizontalement. Alors ça c'est une bonne nouvelle parce que si jamais je change l'ordre de mon bouton valider avec mon bouton nouvelle partie, ils vont simplement intervertir l'ordre et l'un va se mettre derrière l'autre. Si je donne une hauteur différente au bouton nouvelle partie, ce que je vais faire maintenant en changeant la propriété hauteur de cet élément bouton nouvelle partie. Je vais donc ici changer un petit peu la hauteur, ou changer ça. Alors là, je change la marge, je ne change pas la hauteur. Je vais définir ici une nouvelle hauteur. Vous voyez que l'élément qui est derrière est poussé. L'élément qui est derrière est repoussé. Et si j'inverse à nouveau l'ordre, vous voyez que les deux s'intervertissent. Donc la stack panel, c'est vraiment ça. Ça peut être aussi organisé de manière horizontale, mais globalement, c'est ça une stack panel. Et là, mes deux boutons ne devraient pas forcément faire partie de la stack panel, puisque, pour rappel, je veux les positionner en bas du layout et relatifs non pas à la stack panel dans laquelle ils sont pour l'instant, mais à la grille qui contient tout mon affichage ici. Donc la première des choses, c'est peut-être effectivement de modifier les boutons. Ici, donc de dire le bouton finalement validé, il va peut-être plutôt dans la grille, ici. Pareil pour mon bouton finalement nouvelle partie. Voilà, donc là maintenant mes boutons, et hop, je vais faire remonter ma stack panel à ce niveau-là. Donc vous voyez que mes boutons maintenant, bouton nouvelle partie et bouton validé sont bien positionnés à l'intérieur de ma grille initiale et que ma stack panel est devenue un élément ici positionné elle aussi au même niveau. Alors ces boutons là aussi, par défaut, vous voyez qu'ils sont positionnés, ils ont hérité de leur ancien positionnement. Le but du jeu, là, sera de les redéfinir. Et par exemple, pour redéfinir un bouton, je vais venir dire dans ces alignements, vous voyez ici, dans ces contrôles de layout, je vais venir dire plutôt que de les placer ici alignés, centrés parfaitement, je vais te dire moi je voudrais plutôt que ce bouton nouvelle partie soit aligné en bas et sans marge. Ici, je vois qu'il y a des marges importantes. Et pour annuler les marges, je viens ici sur le petit taquet blanc qui se trouve à côté des propriétés de marge et je viens faire reset. Voilà, donc là, mon bouton maintenant, il est bien ancré en bas. Et pour respecter le design que j'avais défini ici, eh bien, je vais tout simplement dire, je veux qu'il soit ancré en bas et sur la gauche. Voilà, mon bouton est déjà un peu mieux placé. Il n'y a peut-être pas assez de marge de chaque côté. Vous voyez que sur la version finale ici, j'ai une petite marge en haut, enfin sur le côté et en dessous du bouton. Et pour ça, je vais jouer effectivement avec les marges. Je vais dire, laisse-moi un petit peu de marge de ce côté-là, mettons 10 pixels. Et donne-moi un peu de marge en bas aussi, de 10 pixels. Voilà, mon bouton nouvelle partie est bien placé. On verra après comment l'ajuster. Même chose pour le bouton valider. Je vais dire là aussi, j'aimerais que tu sois en bas, mais cette fois-ci plutôt ancré à droite et en bas, sans marge. Reset. Avec une marge de ce côté droit de 10 pixels et une marge basse, elle aussi de 10 pixels. Mes deux boutons sont bien alignés. Et j'ai déjà commencé à altérer le layout qui existait dans l'application WPF de base pour le conformer finalement, pour le conformer à ce que je veux obtenir d'après ma maquette. Bien, alors de la même manière, on va réagencer comme ça un petit peu tous les éléments existants dans le fonctionnel de l'application, de manière à les faire correspondre à notre maquette. Donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, on va peut-être faire une première construction de l'application. Donc en faisant projet et en disant build project ici, ou run project F5, qui me permet de le lancer une fois pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, qu'on ne se trompe pas, je le lance depuis Blend et je vois que le fonctionnel continue à fonctionner. En l'occurrence, puisque là je vais commencer à faire 5, je valide et il me dit C++. Ça me permet aussi de voir à cet endroit-là où sont stockées les informations et quels sont les blocs qui correspondent aux informations que je suis en train d'effectuer par rapport à ma maquette. Par exemple, je me rends compte que par rapport à ma maquette, le C++ vient en dessous de essai numéro 2. Donc par rapport à ma logique de stack panel, ici, il va falloir que je change 2-3 petites choses. Alors là, je vais refermer cette application, tout en sachant que le C++ ici, ça sera les infos certainement, et qu'en dessous, j'ai le nombre d'essais. Donc ces deux choses, je vais devoir les intervertir. Comme on a vu précédemment, les intervertir, c'est assez facile, puisque j'ai nombre d'essais ici. J'ai juste à le placer au-dessus, et automatiquement, puisque c'est une stack panel, les deux objets vont s'interpositionner à l'endroit qui va bien. Donc le C++, on voit aussi dans ma maquette ou dans le nombre d'essais que je l'ai placé de l'autre côté. Ça, c'était pour éviter d'alourdir trop cette partie-là. Donc je vais sélectionner cet élément et puis je vais dire très bien, regardons un peu comment c'est placé. Effectivement, j'ai du texte Sego et UI en 9 points. Bon, je vais aller voir dans les paragraphes et puis je vais regarder peut-être les options d'alignement du paragraphe. Non, c'est peut-être pas là qu'il faut que je cherche. Donc je vais tout simplement changer la manière de présenter le contenu et je vais le faire passer de l'autre côté. Là aussi, rien n'empêche de mettre une petite marge juste ici pour dire moi j'aimerais avoir une petite marge à droite ou à gauche. Donc là en l'occurrence, déclencher une petite marge de 10 points. Pareil pour le premier élément, cet élément-là, je veux dire j'aimerais avoir une marge de 10 points pour éviter, enfin pour que tout soit bien aligné, que tous mes éléments soient bien alignés. Ensuite, j'ai le nombre d'essais, donc voyons voir, enfin les informations. Donc là, c'est centré. Donc cet élément-là, bah, je vais dire, je voudrais qu'il soit peut-être un peu plus grand et qu'il soit centré. Et je vais lui donner par ailleurs une épaisseur fixe en disant bah finalement j'ai pas trop besoin de marge, je vais faire un reset et je le centre comme ça. Hop. Voilà, comme ça il sera centré. En dessous, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai certainement bah, cette grande case ici, insérer votre chiffre ici. Donc pour le coup, cette case-là, bah, je vais lui aussi, enfin elle aussi, lui donner un petit peu de marge. Au moins 10 de chaque côté, hein. Et puis sans doute 10 en haut et en bas par rapport à l'élément précédent. Et puis je vais lui donner une hauteur en disant bah là je veux non pas une hauteur auto mais une hauteur donnée, par exemple 200 pixels. Voilà, en réinitialisant cette marge-là à 10. Voilà, donc là j'ai effectivement tous mes éléments. Je peux réappuyer sur F5 pour voir si tout se passe bien. Donc voilà, je rentre un chiffre, mettons 3, je valide, c'est gagné, bravo, là j'ai eu du bol en plus du premier coup. Donc là j'ai mon positionnement qui est bah, relativement bien par rapport à ce que je souhaitais faire. Là je n'ai pas encore tout à fait bien aligné, mais on verra ça un peu plus tard. Deuxième grand point, ça va être de modifier un petit peu l'interface graphique. Alors pour ça, j'ai prédessiné dans Photoshop un fond, une image de fond qui va me permettre de tout de suite d'embellir un petit peu mon visuel. Alors pour intégrer une image de fond, c'est assez simple. Il faut d'abord la joindre au projet pour que la compilation, quand j'appuie sur F5, bah, sache que j'ai une ressource qui est associée, une ressource de type image qui est associée. Et je vais cette image l'associer à un de mes éléments de positionnement de mon appli. Alors, je vais dans ces cas-là dans Projet, et puis je vais ajouter ici un nouveau dossier, peut-être. Je vais regarder dans mon projet ici. Je vais ajouter un nouveau dossier hein, en sélectionnant le projet et en faisant Add New Folder. Ce New Folder, je vais peut-être le renommer en Asset. Et dans Asset, je vais ajouter un élément qui existe par ailleurs sur mon disque dur. Donc voyons voir, on va essayer de le retrouver. Donc il doit être, j'imagine, sur mon bureau. Dans WPF application. Et cette image, ah bah tiens, cette image, ça tombe bien, elle est ici. Donc je vais la copier directement dans mon répertoire applicatif ici, dans mon appli. Je vois que l'application maintenant fait bien partie de mon projet. Cette image, je vais pouvoir, à ce moment-là, à partir du moment où elle est incluse au projet, bah, l'utiliser comme une ressource. Par exemple, quand je prends ma grille, hein, mon élément qui est juste le premier élément de mon interface, eh bien, je vais pouvoir l'ajouter ici dans le background, tout comme je pourrais rajouter ici une couleur. Hein. Vous vous souvenez qu'on pouvait changer la couleur. Bon voilà, plutôt que de mettre une couleur donnée, je vais plutôt dire, moi j'aimerais positionner une image. Et il va me demander quelle est la source de l'image, c'est l'image background. Et automatiquement, bah déjà, j'ai donné de la valeur ajoutée très très simplement, hein, vous voyez, à mon appli. Et c'est comme ça, en modifiant petit à petit bah, les différents paramètres d'affichage, que je vais pouvoir obtenir une application qui est sympa. Comme vous voyez aussi, au niveau graphique, l'une des principales différences entre ce que j'ai à l'écran en ce moment et l'exe que je compte réaliser, c'est le type de police de caractère que j'emploie. Une police de caractère, vous le savez peut-être, c'est un fichier qui se trouve quelque part sur votre système et qui est adressé. On dit, bah voilà, pour afficher telle chose, tel bouton, tu vas utiliser telle police de caractère qui se trouve sur le système. Bon, bah, cette police de caractère, pour l'instant, elle n'existe pas sur mon système et il va falloir que je l'importe, tout comme j'ai importé mon image. Donc de la même manière que j'ai fait, que j'ai importé mon image tout à l'heure pour faire mon background, je peux très bien ici cliquer sur Asset, dire bah, moi j'aimerais ajouter un élément qui existe sur mon disque dur et puis pointer vers un fichier TTF. TrueType Font qui permet effectivement d'avoir accès à des ressources de type chaîne de caractère, enfin police de caractère. Donc j'ajoute effectivement cet élément-là et à partir du moment où il est ajouté, bah, je peux très bien commencer à customiser un peu l'aspect de mes polices ici, notamment en disant bah très bien, je veux plutôt des polices de caractère blanche à ce niveau-là. Très bien, ça fonctionne. Et je vais dire bah, plutôt que d'utiliser la police Segoe UI qui est système hein, et qui est héritée de mon ici de mon système, je vais dire bah non, moi je veux autre chose. Je veux une police de caractère qui a été ajoutée à mon projet. Je le vois ici, il y a un petit icône, un petit picto qui est spécifique aux polices de caractère ajoutées au projet. Voilà, j'ai ajouté cette police de caractère pour définir cet élément-là. Il ne me reste plus après qu'à jouer un petit peu sur la taille de la police. Donc là, je vais faire ça un petit peu à la mano, hein. Je vais dire, voilà, trouve-le. Je trouve que trouve-le, c'est peut-être pas très très bien, très très bien aligné. Donc je vais peut-être venir ici et puis rajouter... Peut-être un petit, il faudrait peut-être que je rajoute un retour chariot, ou alors ce que je peux faire aussi, c'est diminuer la taille de l'élément graphique, et ainsi de suite. Il y a pas mal d'options là qui me permettent d'éditer le contenu. Bon, pour l'instant, ça me va très bien comme ça, juste avec le petit bémol que je rajouterai ici une petite marge de manière à ce que ça soit équivalent. Et si je voulais faire ça bien, je rajouterais aussi une marge de 10 pixels. Ici pour que tout soit vraiment bien aligné. Donc là, j'ai changé effectivement le look de cet élément. Bah, pareil, on va faire la même chose pour l'élément qui est en dessous. Je vais ici venir dire cette police, je veux qu'elle ait une couleur de police de caractère blanche. Alors là, attention, hein, puisque ça chevauche un petit peu les nuages, je vois qu'ici, je m'étais débrouillé pour que ce label ici soit sous les nuages. Alors pour ça, il existe plusieurs solutions, mais c'est essentiellement à cause du retour à la ligne que j'avais précédemment. Ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est dire je vais ajouter un petit peu de marge, comme c'est une stack panel, ça va pousser l'élément suivant. Donc là, je vais aller dans les alignements, les marges, et puis je vais dire bah tiens, rajoute-moi un petit peu de marge ici, et je vois qu'automatiquement ça décale l'élément qui est en dessous en rajoutant de la marge. Nombre d'essais, bah là pareil, je vais utiliser non pas la police Segoe UI, mais la police Avant-Garde. Très bien, ça fonctionne très très bien jusqu'à là. Et puis je vais continuer comme ça à modifier mes éléments. Une marge parce que je suis un petit peu maniaque ici et ça se passe bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Nombre d'essais, c'est fait. L'info, effectivement, quand je regarde, c'est marqué en non seulement en blanc, donc il va falloir que je fasse changer la taille de ma police par une police de type blanche qui est écrit en avant-garde. Très bien, on sait comment faire depuis quelques minutes, avec une police qui est ma foi assez grosse. Le seul problème c'est que là dans l'état où elle est, pour l'instant je la vois pas parce qu'elle est déclenchée par un script qui dit quand j'ai rentré, quand j'ai validé une solution, ça apparaît. Donc par défaut, elle n'est pas visible cette chose-là. Donc là pour l'instant je travaille un peu en aveugle. Donc voyons voir, faisons un test. On va appuyer sur F5 pour lancer. Alors là bon, il me dit non je peux pas lancer parce qu'il est déjà... Il est déjà lancé en fait, hein, le projet, il est là. Donc je vais le relancer ici, F5. Je vais faire un test, je vais appuyer sur 4. Valider, c'est plus. Bon, c'est quand même pas trop mal, sauf que bon, pour l'instant, c'est pas très bien centré. C'est parce que le texte lui-même n'est pas centré. Le bloc est centré, mais le texte, lui n'est pas centré. Donc dans ces cas-là, il existe des options d'alignement au niveau du paragraphe qui me permettraient effectivement de changer. Le mieux, c'est peut-être encore de réduire un peu les différentes marges ici et de vraiment faire l'effort sur l'alignement de mon élément. Donc là, il est par défaut centré et je vais faire un petit reset ici des valeurs de marge. Voyons voir en relançant la solution. 4. Et là, bah, du coup, c'est plus assez. Donc, il faut vraiment que je donne, par contre, une largeur spécifique à mon élément de manière à lui permettre de bien s'afficher. Voilà. Donc, tout va bien, ça se présente pas trop mal. Reste plus qu'un élément à designer par rapport à la maquette d'origine. C'est cet élément-là où je vais insérer mon chiffre. Alors, je vois que j'ai plusieurs choses qui se produisent. J'ai d'un côté un bloc qui est semi-transparent par défaut. Je vois que j'ai un label qui apparaît quand rien n'est saisi. D'accord? Et quand je commence à saisir dedans, le label disparaît. Ça commence à être un petit peu sympathique comme fonctionnement, avec un blinking cursor, un curseur qui change comme ça, qui change d'état rapidement pour m'indiquer que j'ai quelque chose à saisir. Donc bah, on va vraiment focaliser là-dessus. Je vois aussi que j'ai tout autour de ce cadre un petit trait tout autour. Et on va essayer de reproduire le fonctionnement à l'identique. Donc commençons par nous focaliser sur l'aspect un peu transparent de cet élément et l'aspect police de caractère. Donc par défaut, je vois que j'ai un élément qui a un fond blanc, un background blanc. Donc pour ça, bah, c'est pas très dur, hein. On va garder le blanc, sauf que l'on va dire ici dans les propriétés de la couleur que l'alpha n'est pas à 100%, c'est-à-dire complètement opaque, mais peut-être un petit peu moins. Donc on va pouvoir comme ça définir une couleur de transparence pour notre élément. Alors là, j'avais sélectionné le mauvais élément, on va descendre ici et je vois que j'obtiens bah, un peu l'effet que je souhaitais obtenir avec de la transparence ici. Dans le même état d'esprit, on va pouvoir dire sur cet élément-là, je voudrais un petit contour, un trait de contour. Et ça, c'est le border brush. Hein, le border brush qui est ici, je vais lui dire, bah, je ne sais pas dans quelle couleur il est, il a l'air d'être dans un bleu assez clair dans la maquette d'origine. Je vais dire, voilà, tu me rajoutes un petit border brush. Et ce border brush, je peux dans les propriétés ici définir la taille. Par exemple, je pourrais avoir un trait d'épaisseur qui soit plus haut en haut qu'en bas. Hein, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, je peux avoir vraiment un border brush différent en fonction de chaque dimension. Donc là, ça me va pas trop mal. Je trouve quand même que par rapport à la fenêtre d'origine, c'est un peu déséquilibré. Donc on va faire deux choses. On va réduire un petit peu sa hauteur, de manière à éviter que ça vienne manger sur les boutons, surtout qu'on va modifier les boutons par la suite. Voyons voir par rapport à la maquette, oui, ça tombe pas trop mal ici. Et puis je vais réduire aussi sa largeur. Alors vous voyez que là, par défaut, ça joue sur la marge. On va effectivement repasser sur du centrage et changer les marges, et puis changer effectivement la valeur ici pour que ça soit bien centré. Très bien, on a l'aspect graphique qui pour l'instant est pas mal. Il nous reste à changer maintenant la taille de la police que je vais avoir à mettre dans cet élément. Donc là aussi, hein, une police blanche de type avant-garde. Encore un peu, avant-garde ici. On va prendre une grosse police pour le coup du 48 et puis on va faire un petit test, sachant qu'il faudra aussi que l'on centre la police par la suite. On commence à être vraiment pas mal et ISO fonctionnalité avec cette chose-là. La police mériterait peut-être d'être encore un petit peu plus grande à cet endroit-là. Voilà, là c'est très bien. Il ne nous reste plus qu'à centrer cette police de caractère au niveau de l'afficheur ici. Alors effectivement, on sélectionne bien le bloc, on fait bien attention, et puis je vais aller dans les définitions ici de paragraphe, et je vois que ici les définitions de paragraphe me permettent d'entrer un texte, enfin une propriété particulière. Donc là, ce que je veux, c'est que ça soit centré. Très bien, faisons un essai. Donc, le projet est déjà ouvert à côté. Je le ferme et je relance la compilation en appuyant sur F5. Super. Je vais pouvoir taper mon texte centré. Là, je suis vraiment pas mal en termes de réponse par rapport à la maquette que j'avais fait ici, hein. On commence à vraiment être pas mal. Ce qui nous manque maintenant, en faisant un petit état des lieux, c'est les boutons ici. et puis la petite animation qui est à ce niveau-là. Voyons comment on va faire ceci. Alors là, en l'occurrence, un bouton, pour bien vous expliquer comment ça fonctionne, un bouton, c'est déjà un contrôle, hein. On l'a vu tout à l'heure avec le bouton nouvelle partie, c'est déjà un contrôle. Un petit peu compliqué puisqu'il dispose de ses propres propriétés comme le contenu, hein, ce qu'affiche le bouton par-dessus, et il a déjà ben, un certain nombre de comportements. Par exemple, si j'appuie sur F5 ici, je vois que quand je clique sur valider, j'ai déjà un changement d'état. Ce qui me permet de voir ici que j'ai une petite erreur. Il faudrait que j'allonge à nouveau ma case. Mais ici, j'ai effectivement un petit changement d'état. Le bouton passe en bleu. Donc il y a déjà un certain nombre de comportements qui sont liés à ceci. C'est parce que c'est un contrôle qui est déjà un petit peu compliqué, qui dispose à l'intérieur de lui-même d'un certain nombre d'items. Pour accéder à la modification d'un bouton, il va falloir donc non pas que je m'attaque simplement au bouton, même si c'est déjà possible. Par exemple, ici, sur le bouton valider, je pourrais dire au lieu d'appuyer, d'écrire valider, je pourrais dire OK. Et je change déjà l'aspect du bouton, notamment l'impact que ça a sur sa taille et sur ce qui est écrit au centre. Mais pour aller un petit peu plus loin, il va falloir que j'attaque le bouton dans ses composants propres. Et pour ça, il existe une méthode également. Alors pour pas tout changer, je vais revenir ici, valider. Et puis je vais changer aussi mon petit contrôle ici. J'ai vu que ça ne suffisait pas au niveau de la largeur. On va élargir un petit peu tout ça. Et en fonction du type de contrôle, bah voir si j'ai accès aux options d'alignement. Là, je vois que, vous voyez, la notion de paragraphe ne remonte pas sur ce bloc-là. Très bien, donc je vais aller voir le bouton, celui-là, et puis je vais essayer de le modifier. Alors, pour le modifier, il existe une méthode assez simple. On fait un clic droit ici sur le bouton dans l'arborescence, et puis dire bah, je vais éditer son template, donc ses composants de base. Parce que je ne veux pas tout casser, je vais éditer une copie de ce template-là. Donc je vais travailler sur une copie et puis je vais appeler ça hop, bouton style Michel. Et pour l'instant, je vais dire je veux que ça soit défini dans l'application ou dans le document. Je vais choisir le document. Ça veut dire que la définition du bouton sera stockée dans la page même sur laquelle je suis en train de travailler et non pas dans un fichier de ressources qui traînera dans l'application. Très bien. Je suis en train, dès à présent, de modifier mon bouton. Ce bouton, je vois qu'il est composé d'une bordure, donc d'un élément de placement, tout comme une grille, par exemple. La bordure est un élément de placement, et à l'intérieur, un content presenter. Un content presenter, un petit objet informatique qui me permet d'appliquer une propriété, donc qui va présenter une propriété. Et en l'occurrence, ce content presenter, dans le cadre d'un bouton, il présente la propriété qui est le label du bouton. C'est-à-dire que quand je tape à haut niveau que je veux que mon bouton s'appelle valider ou s'appelle OK, c'est le content presenter qui le prend en charge. Bon, très bien. Si vous voulez remonter au niveau le plus haut, vous pouvez tout simplement ici cliquer sur ce petit bouton pour revenir à la page dans laquelle on était. Et si vous voulez à nouveau modifier le bouton, vous pouvez à tout moment dire je veux éditer son template. Et là, pour le coup, bah, travailler sur celui sur lequel j'étais en train de travailler. Bien, alors ce bouton, je vois que donc il est composé d'un certain nombre de choses. Si je voulais travailler comme ça, je dirais le content presenter, je m'en moque. Et je voudrais travailler que sur le border, et encore, même ça, à la limite, je pourrais m'en moquer et le transformer en autre chose. Par exemple, je pourrais le transformer en une grille, c'est-à-dire changer le type de contrôle de placement par un autre. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire, bah, je veux changer le type de layout, et je vais passer plutôt sur une grille. Et vous voyez qu'automatiquement ici, il m'a créé une grille. Alors je vais zoomer un petit peu de manière à ce qu'on le voit bien ici. Et je vais agrandir un petit peu hop, cet objet qui s'appelle border, mais qui maintenant en fait est une grille. Je peux le retrouver d'ailleurs ici, puisqu'il me dit dans les propriétés que même s'il s'appelle border, en fait, c'est bien une grille. Donc voilà, là j'ai redéfini pour l'instant une première partie. Je vois que ma grille par défaut elle a un background gris et qui est défini par une donnée jaune. Une donnée jaune, ça veut dire que c'est défini ailleurs quelque part dans le programme. Donc ça m'intéresse pas non plus. Je vais dire ça, je vais faire un reset en cliquant toujours sur le petit bouton ici. Je fais un reset et maintenant c'est à moi de définir à quoi va ressembler le bouton. Alors ça tombe d'autant mieux que je l'avais déjà défini ici, hein. Je vois que d'ores et déjà j'avais redéfini les couleurs. Là-dedans, dans cette grille, je vais peut-être vouloir placer un élément graphique qui va me permettre effectivement d'avoir un bord ici arrondi et une couleur de fond. Alors pour ça, il existe un élément vectoriel, donc quelque chose qui se redimensionne avec la résolution, qui s'appelle un rectangle, qui est simplement un objet physique, hein, ici vous voyez, un objet de dessin qui n'a pas d'autres propriétés que ça. Et qui va me permettre, ben, ma foi, de jongler un petit peu avec l'aspect graphique de mon bouton. Donc là, j'ai défini mon rectangle, c'est mon rectangle de fond. Donc par défaut, je regarde un peu, je vois que mon bouton il est bleu avec une bordure blanche. Et ben, on va faire ça. Je vais dire mon bouton, il a un background bleu, comme ça, mettons, avec une bordure blanche. Et là, après, je vais définir bah, la taille de la bordure, mettons 3 pixels, et puis éventuellement, si je veux un effet de coin arrondi, je vais dire peut-être, je sais pas moi, 10 pixels d'arrondi sur X et 10 pixels d'arrondi sur Y. Ceci dit, je vois que là, mon bouton, il occupe pas, enfin du moins, mon rectangle n'occupe pas toute la surface de mon bouton, donc là, je vais aller dans les options d'alignement, et puis je vais dire, bah, tu n'es pas à gauche ou à droite ou en haut, tu vas... Des deux côtés, tu occupes tout l'espace qui est disponible, donc tu t'étires sur l'horizontale et tu t'étires sur le vertical. Vous voyez que ça suffit toujours pas, j'occupe toujours pas l'espace, c'est parce que tout simplement ici j'ai des marges. Donc il me suffit de dire, bah, je fais un reset et je reset également la valeur de hauteur, largeur. Voilà, mon bouton occupe à présent bien tout l'espace qui lui est donné. Il lui manque quelque chose, hein. Il lui manque le content presenter qu'on a supprimé tout à l'heure. Donc pour ça, je vais aller dans mes assets et puis je vais aller chercher ici dans mes contrôles, dans tous mes contrôles, je vais aller chercher ici un content presenter. Donc je descends, je vois effectivement que j'ai un content presenter. Ce content presenter, je vais le déplacer et je vais le jeter dans ma bordure. Seul problème, c'est que là, il est derrière le rectangle, donc il n'est pas vu. Donc je change l'ordre d'arrivée et je vois que j'ai mon content presenter. Alors comment faire pour inverser ce label? Eh bien, je vois que j'ai des options d'alignement ici. Et en dessous, j'ai des paramètres de transformation. Alors, je ne vais pas m'embêter plus longtemps que ça. Je vais aller dans ces paramètres de transformation. Et je vois que dans ces paramètres de transformation, j'ai des translations qui me permettent de déplacer mon objet juste au niveau du rendu, pas au niveau de son placement. Et bien, je vais utiliser la propriété flip ici, retournement, pour inverser les deux sens. Mon objet, voilà, je l'ai remis à l'endroit. Il ne me reste plus qu'à définir bah, quel est son type d'alignement. Bah, par exemple, je vais le centrer verticalement et horizontalement. Et puis, bien entendu, on verra après comment fonctionne. Vous voyez que là, j'ai pas d'idée, notamment comment fonctionne le type de police de caractère. C'est parce que ça ne se règle pas au niveau du content presenter. Ça se règle après au niveau général du bouton qui est ici. Alors pareil, hein, vous voyez que la police ici est écrite en noir, donc on va le changer pour du blanc, et on va changer la police de caractère ici par de l'avant-garde. On va augmenter un peu la police, on va dire, on va pousser un peu beaucoup, ça c'est encore un peu trop fort, 14, et j'ai redéfini mon bouton de manière à le faire correspondre à l'aspect graphique de ma maquette. Très bien, ça fonctionne. Il y a juste un petit problème, c'est qu'un bouton par défaut dispose d'un effet de rollover. C'est-à-dire que quand ma souris passe dessus, pour m'indiquer que c'est un bouton, elle change d'état. Bon, bah, ce changement d'état, il va falloir aussi qu'on le code. Parce que par défaut, ici, bah, ça n'est pas pris en compte. J'ai bien mon bouton qui a été changé, mais j'ai pas de changement d'état. Donc ce changement d'état est pris en charge ici, au niveau, à nouveau, du template. Donc pour ça, je fais un clic droit. J'édite le template actuel, courant, et je vais aller dans un éditeur d'état. Je vais améliorer un petit peu ma visibilité ici. Je vais dans état, state, et je vois que par défaut, la classe bouton, ce qui définit un bouton, embarque avec cette classe bouton un ensemble d'états. Par exemple, normal, ce qui est le cas ici, mouse over, quand je suis avec la souris qui passe par-dessus. Très bien. Changeons l'état de ce bouton quand la souris passe dessus. Je clique sur mouse over, je passe en mode enregistrement, la fenêtre s'entoure de rouge. Je vais aller dans mon rectangle. Et quand je suis en mouse over, je veux que la couleur de background se transforme en orange. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je peux sortir du mode édition du template. Je reviens, je relance ma compilation avec F5. Et maintenant, quand ma souris passe sur le bouton, vous voyez que j'ai bien mon changement d'état. Donc mon bouton fonctionne et change d'état. Ce gabarit-là, je vais l'appliquer. Je vais tenter de l'appliquer à cet autre bouton ici, nouvelle partie, pour éviter d'avoir à refaire tout le travail. Donc je vais venir ici sélectionner ce bouton-là, nouvelle partie. Et je vais lui dire, bah, tant qu'à faire, ce qui serait bien, c'est que tu récupères ce que j'ai déjà fait pour le bouton originel et puis que tu le dupliques ici. Donc je vais aller dire, bah, je voudrais éditer ton template. Oui, c'est bien ça, mais je voudrais lui appliquer une ressource qui existe déjà, bouton style Michel. Et automatiquement, vous voyez que il reprend les composantes. Je n'ai plus qu'à re-régler finalement la couleur de background, qui est encore une fois pas traitée par le template, mais qui est traitée à haut niveau. Je vais venir lui dire, bah, tu utilises de l'avant-garde. Et on avait dit, je ne sais plus, en 14 pouces. Alors, mon application est déjà ouverte, je vais la fermer ici. Voilà, j'ai bien mon application avec le fonctionnel 5, C+, et ainsi de suite. Vous voyez que ça fonctionne pour le coup très très bien et qu'on a déjà bah, bien redéfini l'aspect graphique de cette partie-là. Alors une fois qu'on en est là, il ne reste plus grand-chose à faire finalement, peut-être simplement à animer un petit peu le premier label, hein, comme je le vois ici. Hein, je vois que mon premier label est un peu animé. Donc pour faire ça de manière assez simple, on travaille un peu de la même manière que l'on pourrait travailler dans Flash ou dans tous les logiciels qui font de l'édition d'animation, c'est-à-dire travailler par des points clés. Et pour passer en mode point clé, je vais ici changer un petit peu hop, ma résolution de mon afficheur au centre, je vais me recentrer et j'ai la possibilité de changer rapidement de type de visualisation en passant par un état des fenêtres plus proche de l'animation. Voilà, je passe dans ce mode-là et je vois qu'ici bah, mes barres s'allongent de manière à me permettre de l'édition d'objets. Et pour faire de l'animation, c'est somme toute assez simple. C'est de choisir bah, par exemple quel est l'objet qui va bouger. Donc là en l'occurrence, ça sera j'ai choisi un nombre entre 1 et 20. Et je vais créer une nouvelle, un nouveau storyboard, un nouvel enchaînement d'animation. Ici, en disant, bah, j'ajoute un nouveau storyboard que je vais appeler animation choisir nombre. Alors là, il risque de ne pas être tout à fait d'accord. Vous voyez que quand j'essaye de taper des espaces, automatiquement, il me convertit l'espace, il me le supprime. Faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Et là, je vois que j'ai une barre de temps qui apparaît avec les secondes, hein, et ça va me permettre comme ça de régler bah, finalement mon animation. Alors par exemple, je veux débuter ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer, je sais pas si c'est si bien cet élément-là, je vais enregistrer une première clé à vide, et puis je vais dire bah finalement à 1 seconde, je veux que cet élément soit un petit peu plus petit. Un petit peu plus petit, je sais le faire ça d'ores et déjà, puisque j'ai vu tout à l'heure que j'avais les transformations ici. Donc je vais dire bah, finalement une transformation, c'est une mise à l'échelle. Et je vais réduire ici. Je vais prendre la mise à l'échelle. Je vais dire bah, je veux que ça fasse plus que 0,6, 5, non 0,6. Et 0,6 sur l'axe des Y. Voilà, là j'ai créé une animation très très simple autour du keyframe. Vous voyez, quand je joue mon petit curseur ici, j'ai bien l'animation. Et si je veux que ça revienne à son état normal, bah je vais prendre tout simplement cette clé ici, là. Je vais la copier et puis je vais peut-être la dupliquer ici en appuyant peut-être sur Shift. Et comme ça, mon animation bouclera entre les deux. Et là, je recrée ma clé de départ. Ça, elle rebouclera à l'infini. À l'infini, il faut quand même que je lui dise. Hein. Par exemple, ici, j'ai la valeur. Je peux très bien lui dire cette animation ici, cette clé d'animation qui est un render transform, c'est une mise à l'échelle X et Y. Et je peux lui dire combien de fois tu le répètes. Voilà, je peux dire répète-le à l'infini sur l'axe des X, et puis répète-le aussi à l'infini sur l'axe des Y. Comme ça va cycler sans que j'aie besoin de lui demander. Une fois que j'ai fini ce storyboard, je vais regarder un peu ce que ça donne. Donc j'appuie sur F5 et je vois qu'effectivement j'ai bien mon animation. Donc là elle est un petit peu forte, elle est un petit peu rapide. Donc je vais revenir changer un petit peu les paramètres. Je vais venir ici sur la clé donnée. Et vous voyez que la clé ici dispose de sa propre valeur que je peux changer. Donc là c'était un petit peu fort, donc on va dire au lieu de 0,6 on va dire 0,8. Et puis peut-être qu'au lieu de cycler sur 2 secondes, il faudrait peut-être le faire cycler sur 4. Donc je déplace ces deux clés et ces deux clés ici. Et je relance la compilation. Voilà, c'est déjà beaucoup plus calme, déjà beaucoup plus sympa. On pourrait aussi ajouter à certaines clés des comportements un petit peu différents, ce qu'on appelle des easing functions. Par exemple, ici, je pourrais dire que quand on arrive sur cette clé, on a un effet de rebond. Alors voilà ce que ça va donner avec effet de rebond. Je sais que j'aurai trois rebonds avec une certaine force. Je ferme celui-là et je le relance. Voilà, vous voyez qu'il y a des effets de rebond entre la première clé et la deuxième. Voilà, bon, c'est pas très élégant, ça me plaît pas trop. Je préfère avoir une jolie clé à plat. Donc voilà comment je résous mes animations. Et je peux revenir sur mon arrangement de fenêtre classique en revenant sur un workspace de type design. Voilà, j'ai fini mes animations, tout va bien. Je peux fermer le storyboard, revenir à ma vue initiale sous forme d'arbre et contempler mon œuvre encore une fois en appuyant sur F5. Donc on a vu qu'on est parti de quelque chose qui avait été d'abord édité en mode console, qui était passé par une interface graphique, et Stéphanie vous avait expliqué comment faire la conversion d'un mode console en interface graphique dans son cours de développement pour les débutants. Et là, vous voyez que assez facilement, en racontant une histoire, en augmentant légèrement la qualité artistique du projet, en ajoutant un fond, changeant les polices de caractère, changeant un peu, en changeant les boutons, eh ben on est passé avec déjà quelque chose d'un petit peu designé très très simplement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté à ce cours Microsoft Virtual Academy qui traitait du design applicatif. Merci d'avoir assisté à cette suite de cours. Merci encore à Stéphanie Hertrich de m'avoir convié à cette occasion pour vous parler du design applicatif, vous montrer un petit peu les outils que l'on utilise pour créer des interfaces utilisateurs. Merci vraiment d'avoir assisté à ceci et à bientôt pour de nouvelles aventures design au sein de la Microsoft Virtual Academy. À bientôt, au revoir.